Allô, bienvenue à Crime de Bine, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré. Je t'allais en douceur aujourd'hui.
Oui.
Allô.
Allô. On est contente d'être là.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Toujours. Toujours nous.
Toujours pas. Toujours Hélène et Mélanie.
Toujours pas professionnel.
Non. C'est bien de le spécifier des fois parce qu'il y a des gens qui nous écrivent des courriels haineux.
Non.
Par des gens, je veux dire, une personne.
Coups bizarres, mettons.
Ouais, pas bizarre, haineux, mettons. Bizarre. On n'est pas des professionnels, la gang. On est deux copines dans le sous-sol de l'appartement à Hélène.
Ouais.
Puis on se raconte des histoires horribles qui sont arrivées pour vrai. Et on respecte toutes les victimes, on respecte toutes les familles. On n'étudie pas là-dedans. On n'est pas des policiers, on n'est pas des avocats. On n'est rien.
On n'est rien.
On est
des mamans.
On est des mamans.
Hélène, mais de plus en plus famous, parce que tu allais me raconter quelque chose par rapport à ça.
J'allais te raconter par rapport...
On attendait d'enregistrer pour que tu me le racontes.
Ouais. Là, Hélène, écoute, il est arrivé quelque chose. On est famous.
OK.
Je te dis pourquoi. Je suis allée me faire couper les cheveux au salon La Bobine à Longueuil, à côté de chez nous.
Shout-out à La Bobine.
Shout-out à La Bobine. Et là, ma coiffeuse, ma très gentille coiffeuse, Jacinthe, elle me coiffe les cheveux. Et là, on jase. Puis là, évidemment, comme d'habitude, je parle de mon bébé parce que je parle tout le temps de ma fille. Mm-hmm. Puis là, la personne à ma droite, la coiffeuse qui est en train de coiffer quelqu'un d'autre à ma droite, a dit « Hey, excusez les filles. » Elle dit « Faut tellement je vous coupe la parole. » Elle dit « Est-ce que elle dit ta voix, elle me dit quelque chose. Est-ce que t'as un podcast? » Là, je me retourne. Je deviens tellement avec les mêmes watch, je suis comme, eh oui. Elle dit, est-ce que c'est Crime de Bine? Je dis, oh ben, tabarnouche. Elle dit, j'ai reconnu ta voix. Puis ça a l'air qu'elle dit, j'ai reconnu ta voix quand t'as dit le mot bébé. Parce qu'elle dit, je dis le mot bébé comme toi. Ça a l'air que je dis, je sais pas, dis donc bébé.
Bébé.
On le dit, je sais pas.
Mais tu dis un peu comme mon bébé.
Mon bébé.
Mais pas autant, là. Mais...
Mon bébé. Mais en tout cas, puis elle dit, les filles sont bien fans. Je pense que c'est Léon.
Oh my god,
son
c'est
nom.
Tellement hot.
Fait que salut les filles, merci de nous écouter. C'est capoté. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu à ma voix.
C'est fou.
Complètement random.
C'est fou.
Dans un salon de coiffure à Longueuil. Fait que, allô les filles, si vous nous écoutez, je suis vraiment contente de savoir que j'ai des fans. Ça, c'était mon patin de la semaine. We made it!
Yes! Ben, ah oui, on a une autre histoire. Ben, je pense que je l'avais raconté.
Ouais.
Mon ami qui habite en haut de chez nous.
Ah oui, c'est vrai!
Hilaire. Il donnait une formation, quelque chose, dans une école au sud de Montréal, la rive sud de Montréal. Puis les élèves, ils ont demandé s'ils faisaient un podcast. S'il était dans Crime de Bine parce qu'il trouvait qu'il avait la même voix qu'Anthony.
Il pensait que c'était l'amoureux à Hélène, mais c'est son voisin d'en haut.
Mais c'est ça, c'est mon voisin. Fait que shout-out aux élèves. Mais je me rappelle plus, je pense qu'il m'a dit l'école, mais je me rappelle plus. Fait que shout-out à vous les élèves qui ont pensé que Hilaire, c'était Anthony.
Notre ingénieur de son.
Oui. OK, maintenant qu'on a établi qu'on était famous, là, on a un giga ultra méga
le plus potin. Gros potin qu'on aurait pu avoir ever.
Oui.
Que vous avez été très nombreux à nous envoyer.
Oui.
Le potin de...
Sharon Pryor.
Épisode numéro
41. Que Mel a raconté. C'est vraiment horrible d'une ado qui s'est faite brutalement tuer. Ben, enfin, elle a été enlevée dans l'ouest de Montréal puis on l'a retrouvé son corps à Longueuil quelques jours plus tard.
Ouais.
Ça fait genre 45 ans. Puis c'est toujours irrésolu. Et là, en ce moment même, l'enquête est sur le point d'être résolue officiellement parce que, je vais vous lire, attends, un petit extrait de Radio-Canada. Alors, grâce aux traces... Alors, grâce aux traces d'ADN qu'ils ont retrouvées sur les vêtements de la victime et aussi il y avait un T-shirt du présumé agresseur qui avait été trouvé sur les lieux, ben, ils ont envoyé ces échantillons d'ADN-là au laboratoire judiciaire de Virginie, aux États-Unis, en 2019. Puis, en juin 2022, il y a des recoupements génétiques qui ont révélé une correspondance avec le nom de famille Romine. Fait que là, ça c'est genre les techniques d'ADN de recoupement. Là. Fait que, tu sais, quand t'envoies ton ADN pour savoir d'où viennent tes origines, là,
ouais.
Ben là, il y a de plus en plus d'enquêtes qui se font résoudre grâce à ça. Là. Fait qu'avec les recoupements génétiques, on sait que c'est ça. C'est que ça
est
dans quelle famille. Puis après ça, dans la famille, tu peux comme zoomer sur un suspect. Fait que c'est ça. Avec le nom de famille Romin, leur attention s'est portée vers Franklin Romin. Alors, cet homme-là, il a demeuré à deux adresses à Montréal et à Longueuil dans les années 70, donc au moment du meurtre. Il y avait trois frères, mais c'est le seul qui a vécu à Montréal, fait qu'ils ont éliminé les autres, dans le fond. Et aussi, le véhicule qui a été immatriculé au nom de Romine, les pneus correspondent aux traces trouvées dans la neige sur la scène de crime. Il possédait un casier judiciaire quand même bien rempli aux États-Unis. Là. Pas pour meurtre, je pense, là, mais comme pour plein d'autres affaires. C'est ça, fait que là, ils ont fait une demande officielle pour exhumer le corps parce qu'il est décédé pas longtemps après Franklin Romine. En fait, je pense qu'il est décédé en 82, genre quelques années après le meurtre de Sharon. Mais c'est ça, fait que là, la police, le SPMM a demandé d'exhumer le corps en Virginie pour voir finaliser les tests puis vraiment conclure que c'était bien lui, le meurtrier de Sharon.
Et tu me parles d'une grosse conclusion d'un très gros cas.
C'est fou, là. Puis,
comme quoi, faut jamais perdre jamais l'espoir.
Tu sais, sa mère est encore en vie, là. Mais oui. Puis,
Et 45 ans plus tard, c'est
45 ans, elle devait tellement avoir perdu espoir, là. Mais non. C'est
comme réouvrir une plaie 45 ans plus tard, mais pour avoir une conclusion.
Oui, enfin.
Enfin. Je serais curieuse de savoir. Elle va sûrement faire un statement ou quelque chose.
Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'ils vont probablement l'annoncer officiellement quand ils vont vraiment fermer l'enquête. Là. C'est comme là, c'est sur le point d'être résolu. Ils sont pas mal sûrs que c'est lui, mais il faut juste comme.
Waouh, les avancées technologiques.
Oui. Hein.
On va vous tenir au courant sur la conclusion de ce cas-là.
Le mime de. Science, bitch! Tu le connais-tu?
Non!
C'est Jesse dans Breaking Bad.
Ouais.
Qui fait juste genre Science, bitch! Ouais.
Faudrait mettre ce mème-là, en effet. Ouais. Oh my god. Pour terminer la section crime de potin, j'ai un petit shout-out à faire.
Ouais.
J'ai parlé à Justine qui nous a raconté. Elle nous a envoyé vraiment un full beau message positif et plein d'amour. Puis elle a dit qu'elle était bien fan de nous autres, puis elle a dit que son chum, il est garagiste, puis il répare des motos chez eux, comme de la maison, dans son garage. Puis ça a l'air qu'elle disait, tu sais, il disait qu'il voulait pas tout le temps écouter de la musique ou whatever, puis là, elle avait comme conseillé d'écouter des podcasts, puis elle était déjà fan de nous, mais tu sais, elle n'avait pas parlé de nous. Puis là, elle a dit à un moment donné, je rentre dans le garage, puis j'entends les voix de Mélanie puis Hélène. Il est en train de nous écouter. Puis elle a dit, crime, elle a dit, je les ai convertis. Puis là, son chum, il disait, genre, ouais, je t'ai entendu les écouter, c'est quand même intéressant. Fait que là, il a commencé à nous écouter en réparant des motos.
Ah, yeah.
Fait que salut à Justine et son chum qui repart des motos en nous écoutant. Voilà le chanteur de la journée après les filles de la bobine et le potin sur Sharon Pryor, ouais. Qui était énorme. Voici ce qui conclut la première partie de ce podcast.
Maintenant, en deuxième partie, Mélanie nous raconte...
Les meurtres de la famille Chafia. Que je pense que tu es déjà au courant de l'histoire.
C'est pas doux, ça.
Ouais, il n'y a pas grand monde qui ne sont pas au courant de cette histoire-là. Mm. Ça fait pas si longtemps en plus. Hein, c'est arrivé en 2009.
Ouais, c'est ça, quand même récent.
En tout cas, c'est un épisode chargé. Je vous avertis, c'est un long épisode. Un long épisode. Mes sources. J'ai écouté un documentaire de genre 45 minutes à peu près sur une émission qui s'appelle The Fifth Estate, qui date de 2012. Ça s'appelle House of Chafia. Aussi, j'ai lu, je peux même pas compter combien d'articles et entrevues de CBC News, CTV puis la Montréal Gazette. Et j'ai aussi écouté 4 épisodes de podcast là-dessus. Fait qu'il y a de l'information, ma fille. Il a vraiment fallu que je fasse un tri parce que...
Ouais.
Donc, l'histoire va comme suit. Mohamed Chafia, originaire de Kaboul, en Afghanistan, c'est un homme d'affaires très accompli et qui vient d'une famille bien aisée. Là, pour le bien de l'histoire, okay, je vais appeler Mohamed Chafia par son nom de famille parce que c'est comme ça que ses proches l'appellent.
OK.
Comme juste moi, tu pourrais m'appeler Bouchard, ben. Lui, Bouchard. Il l'appelle Chafia.
Fait que, avec cet accent-là, exactement.
Avec l'accent québécois.
Hey, Chafia.
Chafia. Donc, le père de Chafia décède quand il y a 2 ans dans un accident de voiture. Donc, très jeune, Chafia assume des grandes responsabilités de père de famille. Il termine pas, même pas sa 6e année parce qu'il doit travailler très tôt pour subvenir aux besoins de sa famille. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des proches qui apprennent à réparer des téléviseurs et des radios. Donc, à l'adolescence, il s'ouvre un petit magasin d'électronique parce que son grand-père y avait fait un petit prêt d'argent. Et il finit par ouvrir un plus grand magasin dans le centre-ville de Kaboul où il commence à importer et à revendre d'autres types d'appareils électroniques. Lorsqu'il a 25 ans, la mère de Chafia décide qu'il est temps pour lui de se marier et de fonder sa propre famille. Donc, elle lui arrange un mariage avec une jeune fille de 18 ans du nom de Rona Amir Mohamed. Rona, c'est la fille aînée d'un colonel de l'armée à la retraite, puis est décrite comme jolie, timide, calme et très réservée. Elle vient aussi d'une bonne famille, classe moyenne. Donc, Rona et Chafia se fiancent en 1978. Lorsqu'ils ont respectivement 18 et 25 ans, puis se marient en février 79. Il faut spécifier qu'à cette époque-là, qu'en 79, il y a la guerre d'Afghanistan qui venait de commencer, puis que l'URSS était en pleine invasion du pays. Fait que c'était un contexte assez chaotique.
Ouais.
La guerre a duré 10 ans, je pense, c'est 79 à 89. Donc, les tourtereaux se marient, puis ils tentent d'avoir un enfant. Après de nombreuses tentatives et tests et blablabla, ils se rendent compte que Rona est infertile.
Oh.
À l'annonce de la nouvelle, Chafia, il n'y a pas tant de réactions, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que c'est un homme d'affaires vraiment occupé, puis il a mieux focusé pour l'instant sur son entreprise, parce qu'il vient juste de lancer une société appelée Babool Limited, qui importe puis qui distribue des produits électroniques venant du Japon. C'est une opération de plusieurs millions de dollars. Fait. C'est un businessman.
Ouais, ouais.
Et après plusieurs années sans enfant, Chafia, il commence à se faire un peu ridiculiser par ses proches où il habite puis ses associés. Il se fait dire des affaires genre « c'est parce que t'es pas assez molle que ta femme tombe pas enceinte », blablabla. Chafia, il trouve pas ça drôle du tout. Puis il accumule vraiment, vraiment beaucoup de colère. Colère qui finit par jeter sur sa femme, malheureusement. Du jour au lendemain, Chafia devient super violent puis contrôlant puis il trouve des défauts dans tout ce que Rona a fait. Tous les prétextes sont bons pour lever la main sur sa femme. Et là, on se demande, est-ce qu'elle peut demander le divorce? Là, je veux pas trop m'étaler sur le sujet parce que je m'y connais pas vraiment du tout puis je veux pas...
Sur le droit afghan.
C'est ça.
Tu n'es pas spécialisée en droit afghan, Mel.
Étonnamment, non. Donc, je veux pas comme communiquer des fausses informations ou quoi que ce soit, mais OK, de ce que j'ai lu, sur la loi afghane, sous le gouvernement taliban, les divorces sont limités au cas où le mari est toxicomane ou a quitté le pays. Et là, par rapport à ça, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes afghanes qui ont été victimes de violences conjugales qui disent que même dans des cas de violences domestiques ou lorsque le mari n'est pas d'accord pour divorcer, souvent, le tribunal n'y accorde pas le divorce. Là, c'est pas mon opinion à moi, OK? C'est ce que j'ai lu sur la loi afghane. Je vais pas me faire...
Fait qu'elle pouvait pas divorcer, bref.
Non, c'est pas une option. Mais là, Rona, elle n'en peut plus. Ça fait 10 ans qu'elle souffre, qu'elle est à bout. Fait qu'elle trouve une autre solution. Elle dit à son chum, à son mari, tu pourrais prendre une deuxième femme. Parce qu'on se rappelle qu'en Afghanistan, la polygamie, c'est légal. Donc, Chafia accepte. Et là, il fait la rencontre de Touba Mohamed Yahya. Touba, elle a 17 ans, est éduquée, puis vient d'une famille aisée aussi. Chafia, à ce moment-là, il a à peu près le double de son âge, mais il décide quand même de se marier en janvier 89, à l'endroit exact où Rona et lui se sont mariés 10 ans plus tôt. Et 2 semaines après le mariage, Touba tombe enceinte.
OK.
Boum.
Pas long.
Donc, en septembre 89, leur fille Zainab naît. À la maison, Rona, parce que là, Rona, Touba et Chafia habitent ensemble avec bébé Zainab. Rona, elle joue plus le rôle d'une servante, puis même, selon les mots de Touba, d'esclave. Le 31 décembre 1990, donc un peu plus d'un an après la naissance de leur fille, Touba accouche de son premier fils, Ahmed. Dans le journal intime de Rona, que je vais nommer un peu souvent le... Un peu souvent. Le journal intime de Rona, parce qu'elle documentait vraiment tout.
Ah ouais.
Tout. Donc, dans son journal intime, on peut lire, et je cite, « Tout bas a comploté pour me séparer progressivement. Après la naissance de leur fils Ahmed, le bonheur m'a quitté.
Mmh. »
Ouch, pareil.
Ouais.
Donc, 10 mois après la naissance d'Ahmed, en octobre 91, Touba donne naissance à une autre fille, Sahar. Voyant qu'elle est super fertile puis que elle a, son but, c'est vraiment d'éloigner Rona de Shafia,
mm-hmm.
Touba décide de donner sa fille, Sahar, à Rona pour qu'elle l'élève comme sa propre fille.
Okay.
Fait qu'ils sont dans la même maison,
mm-hmm.
mais elle dit « Ce bébé-là, il va être comme le tien.
Okay. »
Parce qu'elle en a déjà deux, puis elle va en avoir une couple d'autres.
Okay.
Donc, en 92, la guerre, là, c'est vraiment rendu intense. Il y a des milliers de personnes qui meurent. C'est super dangereux et menaçant. Shafia, il décide de partir avec sa famille pour le Pakistan. Il amène ses 2 femmes, ses 3 enfants. Et à ce moment-là, Touba est encore enceinte.
Mm.
Fait qu'elle a pop un enfant à chaque année pendant un petit moment.
Donc,
elle accouche en décembre de la même année de son 4e enfant, une fillette dont on ne connaît pas le nom. Dû à une interdiction de publication. Donc, on va l'appeler Enfant 4. En novembre 93, ils sont encore au Pakistan. Il y a un 5e enfant qui fait son arrivée dans la famille. C'est un petit garçon dont le nom est aussi protégé par une interdiction de publication. Donc, on va l'appeler Enfant 5. 2 ans pile plus tard, novembre 95, Touba à la couche de son 6e et non dernier enfant.
une fille... Grosse famille.
Ouais, une fille du nom de GT. Quelques mois après la naissance de GT, les Shafia déménagent brièvement en Australie, puis ils s'en vont à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, où Shafia lance une nouvelle entreprise appelée M. Shafia Trading, qui est aussi un énorme succès. Fait que là, les Shafia, ils vivent dans l'abondance, sont riches comme ça se peut pas. Les enfants, ils vont dans des écoles privées américaines à Dubaï, okay. où ils fréquentent d'autres enfants des riches familles du monde entier.
Mm-hmm.
Ils sont tous ensemble. Donc, ils parlent anglais, puis ils aiment beaucoup, ils sont vraiment par la culture, ils vivent par la culture occidentale beaucoup.
Ouais.
À ce moment-là, Touba donne naissance à son 7e et dernier enfant, un garçon aussi sur une interdiction de publication, donc ça va être enfant 7. En 2007, Shafia tombe sur un programme spécial pour les investisseurs immigrants. Ça s'appelle le programme des gens d'affaires sélectionnés par... Le Québec.
Ah,
le Québec, ouais. Parce que là, tu veux dire, mais là, c'est un podcast de True Crime québécois et canadien, puis là, t'es en Afghanistan. Ils s'en viennent ici. Okay? Ils s'en viennent ici. Donc, en gros, ce programme-là, OK? J'ai lu la page, c'est vraiment offert par le gouvernement.
Mm-hmm.
Le programme permet aux immigrants riches et entrepreneurs de faire une demande de résidence permanente au Québec sous 2 conditions. 1, fournir un chèque de 400 000 $ 2, faire rouler et investir dans l'économie locale. Donc, puisque la famille Shafia ne réussissait comme pas à avoir sa résidence permanente à Dubaï, ils voulaient définitivement pas retourner en Afghanistan mm-hmm. ou au Pakistan. Donc, le programme québécois, pour eux, ça avait vraiment du sens. Puis le Canada, c'est un nice pays pareil, on va se dire.
Ouais.
Donc, les 10 membres de la famille Shafia, donc les 2 femmes, le papa et les 7 enfants, ils déménagent donc au Québec. Cependant, au Canada, la polygamie est illégale.
Ouais.
Fait que là, Shafia, il peut pas amener ses 2 femmes avec lui. Il faut qu'il en amène une. On s'entend qu'il choisit Touba.
Touba, ouais.
il renvoie Rona en Europe chez des parents éloignés pendant qu'il peut trouver le moyen de la faire venir au Canada. Mm-hmm. Donc, en arrivant au Canada, la première chose que Shafia, il fait, il s'achète une Lexus. C'est une voiture.
OK.
OK, pour toi qui connais pas.
Je savais que c'était une
Hélène
voiture.
Hélène et les voitures. Hélène, c'est une belle voiture, OK? Ensuite, il achète un petit centre commercial d'une valeur d'à peu près 2 millions de $ à Laval.
Ah.
C'est genre un petit... tu sais, il y a genre... J'ai vu une photo, là, genre un super club Vidéotron. Tu sais, juste genre, un petit... C'est comme petit plusieurs commerces, ouais. un à côté
ouais.
de l'autre. Là.
Ouais.
C'est ça, il achète ça. Et aussi, il achète à Laval un terrain vacant d'une valeur de 200 000 $, pardon. Où il prévoit construire une maison familiale d'une valeur d'à peu près 1 million de dollars. Puis, évidemment, on s'y attendait, il lance une entreprise d'import-export de vêtements et d'articles ménagers.
Okay.
Donc, tu sais, il tient son bout du deal, ça, là, il fait rouler ouais. l'économie locale. Mm-hmm. C'était ça le point. Donc, en attendant leur palace, c'est que mm-hmm. leur maison qui va se construire.
Ils vivent dans la Lexus.
Quasiment. La famille habite un minuscule appartement de 4 chambres dans Saint-Léonard à Montréal. J'ai vu des photos aussi, il faudrait que je te montre, mais c'est genre les petits appartements blancs là avec des... c'est sûr que tu les as vus. Attends. Ah, j'ai trouvé la photo. Ça, c'est mmh. le... Je vais vous les mettre, là. Je vais vous les mettre promis, les photos.
Ah, oh, le fait, club Vidéotron.
Ouais, on s'est fait dire qu'on ne met pas souvent les photos qu'on dit qu'on va mettre.
Là, ouais, je vais c'est les vrai mettre que des
Donc ça, c'est le petit mall qu'il a acheté. Puis leur... Oups. Leur... Oh, Colin. Leur appartement à Montréal.
Ah, Saint-Léonard. Oui.
Avoue que tu as vu ça.
Oui, j'y connais ces blocs-là. Ouais,
connais,
ouais,
tout le
ouais.
monde les connaît.
Ouais.
Fait qu'eux autres, ils habitaient là.
Mmh.
Fait que je vais mettre la photo aussi, si vous voulez aller voir. Les gens de Montréal, je suis sûre que tout le monde va faire. Ben oui. Ben oui. Donc, je continue. Donc, ils habitent dans cet appartement-là. Il y a 4 chambres, 2 salles de bain. Ils sont 9, bientôt 10. Puis on se rappelle que le gars, il est loadé, mais quand mm-hmm. même. Et aussi, on voit d'autres photos là, dans le... Check, ils dorment là-dessus.
OK, genre,
il y a pas de lit.
Matelas à terre.
Ouais, c'est genre des...
C'est même pas matelas à terre.
C'est même pas des matelas, c'est on dirait du carton. En tout cas, mettre la photo aussi.
Ils vivent pas comme des, millionnaires qui roulent sur l'or.
Puis c'est fou parce qu'ils passent d'une vie de millionnaire à Dubaï
ouais,
à ça. Mm. Bref. Donc, ils habitent là. Et après 6 mois, à l'automne 2007, Rona réussit à venir rejoindre sa famille à Montréal. Elle a un visa de visiteur. Puis Shafia, elle déclare que c'est sa cousine puis qu'elle vient au Canada à titre de nanny pour s'occuper de ses enfants.
OK. Fait qu'il a trouvé une twist.
Il a trouvé une twist.
Qu'elle vient.
Pendant les 2 années qui suivent, Safia passe les 3/4 de son temps à Dubaï pour des voyages d'affaires. On dit qu'en 2 ans, il aurait passé un total de 6 mois au Canada. C'est pas beaucoup. Lors de ces voyages-là, c'est Ahmed, son fils aîné de 16 ans, qui est en charge. Ahmed, il a les mêmes idéologies et comportements violents de son père. Et quand son père n'est pas là, il installe un règne de terreur et de violence dans la maison. Je te donne un exemple. Du règne d'Ahmed. La semaine de la Saint-Valentin 2008, Zainab elle reçoit un... Zainab, c'est la fille aînée du groupe.
Fait qu'elle a...
18 ans.
18, c'est plus vieille qu'Ahmed.
Elle est plus vieille. Elle reçoit un Valentin de la part de son camarade de classe qui est super amoureux d'elle, Amar. Le Valentin, il dit, et je cite, « Si tu veux être ma petite amie, porte une robe blanche demain, je comprendrai.
Oh! » C'est vraiment cute.
Zainab est arrivée le lendemain à l'école, elle avait une robe blanche.
Oh.
Donc, pour indiquer son amour à Amar. Et il a aussi répondu à son Valentin par un courriel. Dans le courriel est un peu plus long, mais il y a un extrait qui dit « Méfie-toi de mon frère Ahmed, si les proches fais comme si tu ne me connaissais pas.
»
Elle a vraiment peur de son frère. Au printemps de la même année, un mois ou deux plus tard, Touba et Shafia, ils partent tous les deux à Dubaï, laissant Ahmed en charge. Zainab en profite pour inviter Amar chez elle en cachette, mais Ahmed les surprend. Puis là, quand je dis « il les surprend », OK? Il les surprend pas à faire, genre, à frencher ou à faire d'autres affaires. Il les surprend à chiller dans le garage.
Okay.
Ils font rien. Ahmed, il serre la main d'Amar puis il demande de quitter. Ensuite, il crie après sa sœur puis il la punit en lui disant qu'elle retournera plus jamais à l'école puis qu'elle est confinée indéfiniment à sa chambre.
Oh my God.
Il avait ce pouvoir-là.
Hey, c'est son petit frère.
C'est son petit frère, il a 16 ans.
Tabarouette.
Zainab, elle n'a donc plus le droit d'aller à l'école. Elle ne peut pas quitter la maison sans être accompagnée d'un adulte, puis elle n'a pas le droit de parler à quiconque. Tout ça sous les ordres de son petit frère de 16 ans. Le confinement va durer presque un an jusqu'à ce que Shafia décide d'envoyer Zainab à une autre école.
Mm.
Fait que elle est enfermée dans sa chambre pendant un an.
Mais là, dis-moi. Est-ce qu'elle a réussi à avoir à mort?
À suivre. Sa sœur, Sahar, qui a à l'époque 15 ans, elle a aussi vécu son propre enfer. Touba, sa mère, elle l'avait prise à embrasser un garçon et elle l'avait ensuite empêchée aussi d'aller à l'école pendant vraiment une grande période.
Ah ben oui.
Ouais. Genre, c'est, que...
c'est tellement disproportionné.
C'est l'enfer. Quand elle est retournée à l'école, elle avait comme pas le choix de... attends, je recommence cette phrase. Quand elle est retournée à l'école, elle n'avait pas le choix de porter le voile, chose qu'elle ne voulait pas absolument. Elle ne voulait absolument pas faire. Il faut savoir que tous les membres de la famille, sauf Rona, c'est des musulmans chiites. Chiites, pardon. Mais cette religion-là, elle intéressait vraiment pas du tout Sahar, qu'elle voulait vivre à l'occidental.
Mm-hmm.
Pour se rebeller, elle portait le voile, elle mettait le voile le matin. Elle allait à l'école avec. Elle l'enlevait à l'école. Elle Classique. Se maquillait à l'école. Ooh. C'est vraiment rebellée?
Elle s'est rebellée.
Ouais. Et elle remettait le voile avant de rentrer à la maison le soir. Et lorsque Shafia s'en est rendu compte, il est devenu furieux, puis il a dit à Sahar qu'elle déshonorait la famille avec ses comportements de prostituée. C'est son père.
Pas du tout démesuré comme réaction.
Shafia a donc dû établir des règles encore plus strictes pour tous ses enfants. À partir de ce moment-là, Touba, elle emmenait les enfants à l'école le matin, comme juste avant que la cloche sonne. À l'heure du lunch, il y avait une heure pour dîner. Elle allait les chercher à midi. Elle les ramenait à la maison pour les amener à l'école à une heure. Puis elle allait les rechercher à 3 heures pile, quand la cloche sonnait. Il n'y avait pas la permission de contacter qui que ce soit ou de sortir. C'était littéralement des prisonniers.
Oh my God.
C'est à ce moment-là que Sahar a commencé à parler aux enseignants de son école. Elle parlait de la violence qu'elle et ses frères et sœurs subissaient, puis elle disait qu'elle avait vraiment peur. Elle a aussi avoué avoir tenté de se suicider. Dans le journal intime de Rona, on peut lire que Rona l'a demandé à Sahar pourquoi elle avait tenté de s'enlever la vie. Puis Touba, qui les aurait entendus, qui était là, elle aurait répondu, et je cite, « Elle peut aller en enfer, laisse-la se tuer. »
Je ne l'aime pas particulièrement, Touba.
Pas ma préf non plus.
Non.
Après les aveux de Sahar, l'école a appelé les services sociaux. Comme
bon, bravo. Bonne affaire.
Il y a une travailleuse sociale qui est venue visiter Sahar. Puis dès qu'elle a vu la travailleuse sociale, Sahar était comme « Ah non, moi j'ai trop peur des répercussions que ça va avoir. » Donc là, elle revient sur tout ce qu'elle a dit, puis elle dit que c'était pas vrai tout ce qu'elle a dit. Elle a vraiment peur. La travailleuse sociale, à cette étape-là du protocole, elle doit appeler les parents. Ce qu'elle fait. Donc, elle appelle ses parents. Touba, Shafia et Ahmed, voir pourquoi, je sais pas. Ils se présentent à l'école, puis là, ils expliquent à la travailleuse sociale que Sahar a manqué comme à respirer, puis que tout ça, c'est pas vrai, puis faut pas s'inquiéter. 2 jours plus tard, la travailleuse sociale, retourne à l'école pour une visite de suivi, pour voir Sahar. À ce moment-là, Sahar est voilée, puis elle dit qu'elle regrette avoir dit ce qu'elle avait dit aux enseignants de l'école. On peut lire dans le rapport de la travailleuse sociale ceci, et je cite, « On doit procéder à une évaluation lorsque l'enfant est en danger. L'enfant n'est pas en danger. Elle veut rentrer chez elle, nous avons donc classé l'affaire. » Fin.
Ouais. Ouais. Elle a comme pas vu ce qu'elle va avoir. Écoute. Clairement.
Pour ce qui est de Zainab, donc elle qui était la petite robe blanche,
oui,
la
fille aînée. Oui.
Un an après qu'elle a été confinée puis changée d'école, elle a décidé de quitter la maison puis d'aller dans un refuge pour femmes.
Oh, wow.
Aussitôt, son frère Ahmed, quand il a appris la nouvelle, il appelle le 911 puis il dit au répartiteur que sa sœur de 20 ans s'est enfuie. Il dit aussi qu'elle a laissé une note. La note disait « Je veux vivre ma propre vie ». Le répartiteur il aurait répondu à Ahmed qu'elle est en âge légal de quitter son domicile puis de la laisser tranquille.
Bonne réponse.
On pense que ça finit là, mais non.
Et tu sais, à quel point c'est courageux de sa part?
Vraiment.
Tu sais, c'est pas un... à ce moment-là, je sais pas ça fait combien d'années qu'elle est au Québec, mais tu sais, elle a pas...
Elle s'est arrivée en 2007. Puis ça fait 2 ans.
Tu sais, 2 ans, c'est quand même un pays qu'elle connaît pas tant que ça. Puis là, elle quitte, genre, tout ce qu'elle a connu.
Ça te montre à quel point elle est à bout.
Vraiment. Genre, ça n'a aucun fou, sens. Là.
Donc, en apprenant la nouvelle du départ de leur grande sœur, les autres enfants Shafia... Ils ont peur de la réaction / colère de leur père. Fait que ce jour-là, au lieu d'aller à la maison après l'école, ils s'en vont chez un voisin puis ils demandent d'appeler la police.
Oh my God.
Ils ont vraiment peur. Les policiers arrivent sur place. Shafia, il n'est pas là. Les enfants sont dehors, terrifiés, puis ils restent au coin de la rue. Ils ne veulent même pas approcher la maison. Et là, GT, enfant 4 et enfant 5, ils se mettent à raconter des histoires horribles aux policiers à propos de leur père. Fait que là, après ça, quand Shafia arrive sur les lieux, il arrive à la maison, il dit rien, mais il jette un regard aux 3 enfants au coin de la rue sans rien dire. D'après moi, ça devait être un regard glacé. À ce moment-là, dès qu'ils voient leur père, il y a deux des enfants qui sont apeurés puis qui retournent aussitôt voir les policiers pour se rétracter sur tout ce qu'ils venaient de dire. Fait comme, non, qu'est-ce qu'on vient de dire, c'était pas vrai. Ils ont vraiment la chienne. Fait que là, ce jour-là, il y a une travailleuse sociale qui est renvoyée à la maison des Safia pour aller évaluer la situation. Ça donne que c'est la même travailleuse sociale qui avait mis fin au dossier de Sahar l'année précédente.
Bon, vas-tu être plus quick cette fois-ci?
Je ne veux pas du spoil, mais non. Donc, la dame parle à Touba, à Mohamed et à Ahmed, mais elle ne parle pas aux enfants. Dans son rapport, elle conclut qu'il n'y a aucun danger pour les enfants dans ce domicile-là. Point. Mais l'enquête continue quand même. Mais son dossier à elle finit.
OK.
Le 20 avril 2009, il y a un détective montréalais qui travaille sur des cas de maltraitance d'enfants qui se rend à l'école des enfants et qui les interroge. Encore là, pour des raisons qu'on ne connaît pas, ce dossier est également fermé sans aucune conséquence. Je ne sais pas si c'est les enfants ou... T'sais, c'est sûr que les enfants, ils ont tellement peur qu'ils disent
Mais c'est ça, genre, je peux pas croire que ces gens-là qui sont spécialisés là-dedans, ils sont pas capables de justement de voir qu'un enfant peut se rétracter quand il a peur. Là. Puis pas juste un enfant, je veux dire, un adulte aussi peut se rétracter quand il a peur. Là. Je veux dire, c'est comme...
Je sais tellement pas.
Genre, c'est vraiment touché, cette école-là. Quelque chose, tu sais, comme... Je sais pas.
C'est...
En tout cas, en même temps, c'est facile de critiquer Mais, Colin...
Zainab était toujours au refuge pour femmes. Et Ahmed et Touba, ils veulent absolument la ramener à la maison parce que le fait qu'elle ne soit pas à la maison, c'est un manque, c'est un déshonneur à la famille.
Mm-hmm.
Et eux autres sont tout pour l'honneur, on va se dire. Touba, elle se rend au refuge puis elle propose à Zainab d'organiser un mariage entre elle et Amor en échange de son retour à la maison. Et là, Zainab, elle accepte parce qu'elle se dit que c'est ma seule porte de sortie, fait que je vais le faire.
OK.
Puis elle l'aime à mort, fait qu'elle est quand même contente. Le 1er mai 2009, Zainab est de retour dans son foyer familial, puis le mariage a lieu 2 semaines plus tard, le 18 mai. Au mariage, il n'y a aucun membre de la famille d'Amor qui se présente parce qu'il n'approuve pas le mariage. C'est une famille pakistanaise, puis il n'approuve vraiment pas du tout le mariage.
Ah ouais.
Les Shafia sont encore plus insultés de voir les sièges vides au mariage parce que c'est encore... ça abîme leur réputation et leur honneur. Donc, le mariage a lieu. Mais là, ce qui est weird, OK, c'est qu'après la cérémonie, tout de suite après la cérémonie, ils se marient, je le veux, blablabla.
Ouais.
Zainab, elle se retire. Et là, c'est Amor qui a dit ça, qui dans le documentaire, on voit Amor, c'est lui qui parle.
Ouais.
Puis il dit qu'après la cérémonie, il est allé parler avec son frère puis sa mère, Touba et Ahmad, pendant genre 15-20 minutes. Puis après ça, elle revient en larmes, puis elle va voir son mari, puis elle dit... Je peux pas faire ça, je t'aime, mais je peux pas quitter ma famille.
OK.
À ce jour, Amor, il sait pas qu'est-ce qui s'est dit dans cette conversation-là, puis il comprend vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Mais le couple finit par divorcer dans les 24 heures suivantes.
Hein? Oh non!
Puis genre, dans le documentaire, on le voit, il est dévasté, le petit.
Oh, c'est l'enfant. Amor.
Mais le petit, il est pas jeune. Il a de l'air vraiment dévasté.
Hein?
Ouais, c'est vraiment
il y a triste. Comme... Ça comme presque. Il était, genre.
Ouais. Puis on voit beaucoup de courriels aussi entre qui s'échangent pendant qu'elle est au refuge avec Amor puis Zainab. Puis, tu sais, elle l'aime, puis lui aussi, il l'aime. Puis, c'est mon rêve de te marier. Puis, en tout cas, bref. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qui s'est dit dans cette conversation-là, mais là, ils se divorcent dans les 24 heures. Donc, la même personne qui les a mariés les a divorcés. Donc là, pourquoi ils se sont divorcés, on sait pas. Mais il y a quand même des informations dans l'enquête qui ont été révélées plus tard. Après avoir proposé le mariage entre sa fille et Amor, Touba, elle a contacté un de ses frères qui habite en Suède, Fazil. Puis elle voulait comme des conseils, puis elle voulait qu'il l'aide à annuler le mariage de Zainab avant qu'il ait lieu.
OK.
Elle voulait juste qu'il revienne à la maison.
Elle veut juste gâcher le plaisir de tout le monde.
Hein. Exactement. Fazil, il parle à sa nièce et tout, puis là, il se rend compte que, tu sais, elle est en connaissance de cause, elle sait qu'est-ce qui se passe, puis tout, elle est pas conne. Fait qu'elle sait que c'est juste un subterfuge pour l'amener à la maison, mais c'est sa seule porte de sortie, fait qu'elle l'accepte quand même. Fait que là, Fazil, il décide d'appeler Shafia, le papa, et c'est là que Shafia lui explique que sa fille Zainab est, je cite, une pute et apporte le déshonneur à sa famille. Et il révèle ensuite sa solution, assassiner Zainab. C'est ça sa solution.
OK. Ouais. Lui.
Dread de même.
C'était ça. Ouais. Genre, il dit de revenir à la maison pour qu'elle se marie, mais dans le fond, c'est pas vrai, puis il veut juste la tuer.
Exactement.
Puis il dit ça à son.
Son plan, ouais. Son plan, c'était de demander à Fazil d'inviter la famille chez lui en Suède, de toute la famille, puis de prévoir un pique-nique près d'un plan d'eau, puis de la jeter à l'eau pour qu'elle se noie. C'était ça son plan. Mais tu sais, dans le plan, est-ce qu'elle sait nager? Est-ce que ses frères et sœurs ne se lanceraient pas aussi dans l'eau pour mm-hmm. aller la sauver? En tout cas, bref.
Plan de merde.
Puis, comme d'habitude, Rona confirme aussi le plan parce qu'elle a confié sa sœur au téléphone, sa sœur qui est en France, qu'on voit aussi dans le documentaire, c'est elle qui raconte ça. Elle dit qu'elle a surpris une conversation entre Shafia, Touba et Ahmed, dans laquelle Shafia dit « Je vais aller en Afghanistan et en revenant, je tuerai Zainab. » Carrément. Puis là, Ahmed, il demande « Mais qu'est-ce que tu vas faire des autres? » Puis Shafia, il répond « Je vais les tuer aussi. » La sœur de Rona, quand elle raconte dans le documentaire, tu vois qu'elle est dévastée, puis tu sais, elle dit « C'est con, mais elle dit « Sur le coup, j'y ai répondu qu'elle n'était pas en Afghanistan ou à Dubaï, puis qu'elle était au Canada, puis qu'il n'y a rien qui pouvait y arriver.
Mm. »
C'est vraiment triste, c'est ce qu'elle y a répondu. Mm. Donc, peu après le mariage slash divorce de Zainab, les choses y ont commencé à encore plus mal aller. À ce moment-là, Sahar est en pleine rébellion. Elle a un copain hispanophone dont elle sait très bien que son père et son frère désapprouveraient grandement.
Ouais.
Elle manque beaucoup d'école, ses notes chutent, ses enseignants prennent la drogue. Elle avait aussi des problèmes, des troubles d'alimentation. Il y a un après-midi à l'école qu'elle a perdu connaissance. Son enseignante, elle a appelé la DPJ en disant qu'elle craignait pour la vie de l'adolescente.
Mm-hmm.
Il y a un intervenant au téléphone qui a répondu qu'à l'âge de 17 ans et demi, c'est presque une adulte, qu'elle n'allait pas gérer la situation puis qu'elle devait trouver de l'aide ailleurs.
Quoi?
Ouais. Ça aussi, c'est dans le documentaire. Tu vois l'enseignante qui raconte ça.
Oh.
Elle est dévastée.
Parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de signalements de personnes. Mais
c'est tellement pas la première fois qu'on raconte une histoire que.
Non, je sais.
C'est l'enfer. Mais j'essaie de ne pas émettre de jugement. C'est vraiment difficile parce qu'on n'a vraiment pas toutes les films.
Non, c'est sûr. C'est sûr.
Ahmed, lui, au même moment, il commence à passer des heures et des heures sur son ordi. Puis il effectue comme des recherches vraiment très approfondies sur les lacs et les rivières du Québec et de l'ouest de l'Ontario.
Mm-hmm.
Puis, après ça, les recherches sur Google commencent à se préciser comme de plus en plus. Il y en a un qui dit « Un prisonnier peut-il gérer un bien immobilier? » Il recherche ça. Le 20 juin 2009, il effectue une recherche Google, encore une fois, qui va l'incriminer quand même un peu beaucoup, mm-hmm. un peu plus tard. Il écrit sur Google « Où commettre un meurtre? » Voilà. Donc à ce moment-là, Shafia est encore en voyage d'affaires à Dubaï. Quand il revient, il dit à Zainab qu'il la pardonne, que tout est oublié. Il donne un bisou sur le front. Tout est beau, ce qui est vraiment weird.
Mm-hmm.
Puis là, dans les courriels de Zainab qui sont envoyés à Amar, elle dit... qu'elle trouve vraiment que son père il est bizarre. Puis elle dit il est calme, il n'est pas strict. Elle mentionne que l'ambiance dans la maison est tranquille et étrange. Puis elle dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Oh my God. Mm.
Le 22 juin 2009, deux jours plus tard, Shafia y achète une deuxième voiture. Une Nissan Sentra noire 2004 qui paie cash 5 000 $. Shafia y annonce à sa famille le même jour qu'ils partent en vacances sans leur donner la destination. Le lendemain, ils se rendent à Niagara Falls. Il y a des photos, tu sais, les enfants, ils trippent, là. Il y a des photos qui montrent les enfants dans les attractions touristiques là-bas. Bien sûr, tous les enfants sont là, sauf Ahmed.
Ah, OK.
Ahmed, plus tard dans l'enquête, son cellulaire, il a été retracé à Kingston, quand sa famille est à Niagara Falls, qui est à peu près à 4 heures de route de Niagara Falls.
Mm-hmm.
Et il rejoint sa famille le 29 juin au soir. Et à 8 heures du soir ce jour-là, la famille Shafia quitte le motel puis prend la route.
À 8 heures le soir.
À 8 heures le soir.
Une drôle d'heure pour prendre la route. Mais...
Oui. Le 30 juin, la Nissan Sentra noire 2004 de la famille Shafia est retrouvée submergée sous 2 mètres d'eau aux écluses de Kingston Mill sur le canal Rideau. Dans la voiture, on retrouve le corps de GT, 13 ans, sur le siège du conducteur. le corps de Zainab, 19 ans, côté passager, et les corps de Sahar, 17 ans, et Rona, 52 ans, sur la banquette arrière. À 7h30 du matin ce jour-là, Ahmed avait appelé la police pour signaler un accrochage de voiture qui s'était passé dans un stationnement vide près de chez eux à Montréal.
Bullshit.
Non, il était à Montréal.
Il était à Montréal.
Oui, il est allé à Montréal pour placer cet appel-là. Aussi, vers midi, Shafia s'est rendu au poste de police de Kingston pour signaler la disparition des membres de sa famille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la police avait déjà retrouvé l'auto.
OK.
Là, les enquêteurs ils trouvent la scène un peu louche.
Oui, le gars de 13 ans au volant.
C'est ça. Shafia, Touba et Ahmed sont interrogés. Voici leur version de l'histoire. Après avoir quitté le motel de Niagara Falls à 8h du soir, ils sont arrivés vers 1h du matin à Kingston. Vu qu'il y était plusieurs, il avait pris les deux voitures. Shafia était au volant de sa Lexus, puis Touba conduisait la Nissan. Ils ont loué une chambre dans un hôtel du coin. Ensuite, apparemment, et ça c'est Touba, on voit Touba au poste de police, elle raconte ça, elle dit « Ma fille aînée Zainab est venue me demander les clés de la voiture pour aller chercher ses vêtements. Touba y aurait donné les clés, puis elle serait allée se coucher. » Ça, c'est sa version de l'histoire. Les filles sont alors toutes parties apparemment pour une balade nocturne puis sont jamais revenues. Ça, c'est leur histoire. Fait qu'ils sont au courant de rien parce qu'ils dormaient.
Oui, dans cette famille très, très contrôlante qui ne laisse personne faire ce qu'il veut, les filles ont le droit de partir au milieu de la nuit de même.
Exactement.
Mm-hmm. Logique.
Les enquêteurs, là, ils se méfient de cette histoire-là. C'est de un, pourquoi la plus jeune fille de 13 ans était en train de conduire la voiture.
Ah, c'est ça, c'est une fille, GT.
Oui, c'est une fille.
Ah, qui c'est? Excusez. Je pensais que c'était un gars. Excusez.
Non, désolé, c'est une fille. Mais pourquoi elle conduisait la voiture? Puis pourquoi une femme de 52 ans irait faire une balade en voiture avec trois adolescentes en pleine nuit? Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas.
Ouais.
Il a aussi été déterminé qu'il était impossible que la voiture ait pu tomber dans l'eau sans qu'on ne la pousse à cause des nombreux gros obstacles entre la route et l'eau. Genre, il y a un champ, il y a plein d'affaires. Aussi, il y a des morceaux de phare brisés qui ont été trouvés sur les lieux de l'accident. Puis, coïncidence, la Lexus de Shafia, elle avait un phare brisé. On se rappelle qu'Ahmed y avait signalé un accident de voiture à Montréal ce jour-là.
Ouais.
Un alibi pour expliquer le phare brisé. Le gars, il a conduit jusqu'à Montréal pour aller placer l'appel pour revenir. C'est capoté par
quand même.
C'est beaucoup de route, là. Donc, en plus de toutes les incongruences de l'histoire, on ajoute plusieurs faits étranges qui concordent pas du tout à l'histoire de Shafia et ses complices. Premièrement, le contact de la voiture était coupé. Donc, la voiture n'était pas en marche quand elle est entrée dans l'eau.
Fait qu'elle a été poussée, c'est la seule explication.
Exactement. toutes les fenêtres étaient grandes ouvertes. Les sièges étaient abaissés. Comme quand tu veux relaxer un peu. Genre beaucoup, là. J'ai vu la photo.
Même la conductrice.
Tout. La conductrice aussi de 13 ans, on s'en rappelle. Aussi, il n'y avait aucune des filles qui portait une ceinture de sécurité, puis la voiture était submergée dans juste 2 mètres d'eau. Ça veut dire que, tu sais,
ils n'ont
pas essayé de sortir de l'auto, ils
n'ont
pas... Donc, comment les filles ont pu se noyer dans aussi peu d'eau sans être attachées avec toutes les fenêtres ouvertes? Deux jours plus tard...
Elles étaient mortes avant, probablement. Ce que j'en déduis.
Exactement, probablement. Deux jours plus tard, le 2 juillet 2009, il y a une autopsie qui est faite sur les 4 corps. On détermine la noyade comme la cause des décès.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, OK.
Aussi, chacune d'elles, sauf Sahar, il y avait des ecchymoses identiques sur la tête, exactement au même endroit. Ce qui est vraiment weird. Le lendemain de l'autopsie, la police commence à interroger les suspects, donc Shafia, Touba et Ahmed. Évidemment, ils restent super vagues puis ils donnent absolument aucune information claire. Selon les policiers, ils auraient noyé les filles à quelque part d'autre, puis ils auraient mis dans la voiture, ensuite utilisé la Lexus pour pousser la Nissan dans le canal.
Okay.
C'est comme pas difficile à conclure parce que la Lexus était endommagée en avant avec des marques noires.
Ouais.
Puis la Nissan était endommagée en arrière avec des marques qui correspondaient exactement à celles de la Lexus.
Ouais, j'avoue, la Lexus, je l'ai imaginée blanche, mais peut-être pas blanche.
Et argent.
Argent.
Mais tu sais, ça concordait. Là.
Oui, ouais.
Ça concordait. Fait que c'était pas très difficile. Le seul problème, la police était comme, mais pourquoi? Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça?
Trois enfants, puis ta femme, tu sais.
Donc, 18 jours plus tard, Les policiers invitent Shafia et sa femme à revenir au commissariat de Kingston pour récupérer les affaires qu'ils ont trouvées dans l'auto. Pendant qu'ils sont à l'intérieur, la police, ils ont eu un mandat puis ils mettent la voiture sous écoute.
Ooh.
Dans la voiture, on entend, et je l'ai entendu de mes yeux vus.
Ah ouais?
De mes oreilles.
De tes oreilles vues? De mes oreilles entendues?
Je dis fucking n'importe quoi. On entend Shafia dire, et je cite, « Que le diable chie sur leur tombe.
Hmm. »
Il ajoute, « Est-ce que c'est ce qu'une fille devrait être, une telle pute? »
C'est bien ce qu'un père endeuillé dirait.
Mm-hmm. Et Touba a dit, « Je savais que Zainab était déjà finie, mais j'aurais aimé que les deux autres ne le soient pas. » Ce à quoi Shafia répond, « Non, Touba, elles se sont plantées, il n'y avait aucune autre solution. Je me dis que j'ai bien fait. » Et il y a d'autres choses
horribles
comme ça. Mais le pire, c'est... Ben, c'est en anglais, il dit « I wish the devil shit on their graves. » C'est comme assez...
C'est vraiment horrible de dire ça.
Mm-hmm.
Tabarnak, avec c'est absolument tes enfants, aucun c'est regret. Tes filles. Puis tu sais, OK, Zainab, là, il était fâché, blablabla, Zard. Mais GT, elle avait fait quoi, elle? Ben, puis, genre, ben, les autres, c'est vraiment pas des bonnes raisons de tuer personne.
Ouais,
mais
ben,
comme...
j'ai enlevé qu'elle elle a volé à un moment donné au Walmart.
Comme tous les enfants de 13 ans ouais. font une fois dans leur vie.
Puis, elle avait pas des bonnes notes. Classique adolescente, là.
Mmh.
Voilà. Elle méritait la mort. Le 21 juillet. La police obtient un mandat pour fouiller leur domicile et c'est là qu'ils trouvent l'ordinateur avec toutes les recherches Google d'Amad. Le 23 juillet 2009, deux jours plus tard, Shafia Touba et Ahmed sont arrêtés sous quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré et complot en vue de commettre un meurtre. Ils plaident non coupable.
Mm-hmm, ça va être quoi leur belle excuse?
Le procès commence le 20 octobre 2011, dure 40 jours ouvrables. Touba elle-même est restée à la barre pendant 6 jours. Genre, c'est un procès vraiment lourd. Hey. Le jury avait un vraiment grand nombre de preuves à examiner, en plus de 160 pièces à conviction, puis des dépositions de près de 60 témoins.
Aïe, aïe.
Parce que dans la communauté à Saint-Léonard, c'était très connu que les enfants étaient maltraités, que c'était des prisonniers, que... qu'est-ce que leur père pensait d'eux.
Mais c'est ça, tout là, comme sûrement les amis d'école ont pu tout
témoigner. Oui, tout le monde le savait. Ouais. Tout le monde le savait. Ah, même que... Oh, c'est un peu triste. Le jury a dû visionner une vidéo de 14 minutes montrant les corps dans la voiture submergée.
Ouais.
La majeure partie de la vidéo montre comme des aspects techniques, puis la position de la voiture sous l'eau, les bosses, les aéroflots de l'auto. Mais il y a aussi des moments vraiment intenses, comme la caméra, à un moment donné, elle montre tous les cheveux flottant des filles. Tu vois aussi la tête d'une des victimes coincée dans une fenêtre. Le côté conducteur, tu peux voir les pieds d'un blanc immaculé de GT, puis ses mains étaient comme fermées avec un poing serré.
Oh my God.
14 minutes de ça, c'est long. Là.
C'est vraiment très long.
Et aussi, à la fin du contre-interrogatoire, Shafia il a admis que ses filles, c'était, et je cite, des horreurs et qu'elle méritait de mourir. Mais il continue à dire qu'il les a pas tués.
Il a dit ça en cours?
Oui. Mais il dit qu'il les a pas tués. Finalement, le 30 janvier 2012, il a fallu 15 heures au jury pour déclarer Mohamed Shafia, 58 ans, sa femme Touba Yahya, 42 ans, et leur fils Ahmed Shafia, 21 ans, coupable des quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré.
Yes.
Une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Après le procès, ils ont fait appel, les trois, de la décision, affirmant que leur procès était inéquitable en raison des preuves préjudiciables, accablantes et de stéréotypes culturels. Ils disaient aussi qu'au moment de l'arrestation, Ahmed était mineur, mais qu'il a été jugé comme majeur parce qu'il avait 18 ans en 2012. Mais quand il a été arrêté, il avait 16. La cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas eu d'erreur ou d'iniquité dans la manière dont les preuves avaient été présentées. Shafia a même admis au cours du procès qu'il avait menti au sujet des documents d'immigration de Rona et que le gouvernement du Canada ignorait qu'elle était sa femme jusqu'à son décès. Mm. Le tribunal a décidé qu'il n'y avait absolument aucune raison d'annuler ou de changer leur condamnation.
Ouais.
Bonne chose.
Oui, bonne chose. Bonne décision.
Ça a tellement été un gros cas.
Ouais, ça a tellement été médiatisé.
Tellement été médiatisé. Le seul hic, c'est qu'on ne parlait pas de meurtre ou de violence domestique, ni de féminicide, mais on parlait d'un crime d'honneur dans les médias. Okay? Ça, ouais. C'est ça qui a animé un vraiment gros débat. Je vais te lire un... que j'ai dit violence domestique, je voulais dire violence conjugale. J'ai traduit...
oui, domestic violence.
Bon, ouais. Sorry. Sorry. Mon Dieu. Désolée.
Ton franglais.
Mon franglais.
Est en feu aujourd'hui.
Je sais que c'est un problème, la gang. Je suis au courant. Je travaille là-dessus. Donc, bref. Je te lis un article, un extrait du Montréal Gazette qui parle un peu de la situation. Ça ouais. dit... Qualifier ces meurtres de crimes d'honneur donne l'impression que le féminicide est un événement très inhabituel et que le féminicide est confiné à des populations spécifiques au Canada et à des cultures nationales ou religions spécifiques dans le monde entier. Les statistiques canadiennes prouvent le contraire. Selon Statistique Canada, entre 2000 et 2009, il y a 58 femmes en moyenne qui ont été tuées chaque année à la suite de violences conjugales. Dans cette même période, 67 enfants et adolescents entre 12 et 17 ans ont été assassinés par des membres de leur famille. C'est capoté.
C'est fou.
En revanche, il y aurait eu 12 ou 13 crimes dits d'honneur au Canada au cours de la dernière décennie. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que comparer 12 ou 13 meurtres à des centaines de femmes et d'enfants victimes de violences familiales ne sert qu'à présenter le crime d'honneur, entre guillemets, comme un cas particulier, alors qu'il ne s'inscrit en réalité que dans un schéma plus large de violence à l'égard des femmes.
Mm-hmm. Ouais.
Je trouve que c'est quand même très bien expliqué.
Oui, c'est vraiment bien dit. Ouais.
Donc après ça, après les meurtres ont donné lieu à un débat sur la relation entre les crimes d'honneur et l'islam. Le Conseil suprême islamique du Canada a publiquement dénoncé la violence conjugale et les crimes d'honneur comme étant contraires à l'islam. Les imams du Canada et des États-Unis ont publié une décision morale condamnant officiellement les crimes d'honneur, la violence conjugale et la misogynie comme étant contraires à l'islam. Et l'ambassade d'Afghanistan à Ottawa a condamné les meurtres de la famille Shafia et a qualifié les meurtres de crimes odieux contre l'humanité. Elle a affirmé que ce type de crime ne fait pas partie de la culture afghane ou islamique et n'en est en aucun cas acceptable. Donc, c'est pas pour ceux qui lient les deux, là, c'est pas lié.
Non, c'est ça. C'est pas parce qu'il était musulman chiite qu'il a tué sa famille.
Absolument
pas.
Donc, je trouvais ça important de le dire.
Complètement fou. Dingo.
Exactement. C'est un fucked up.
C'est pour ça.
Pour terminer, les enfants 4, 5 et 7.
Oui, c'est ça. Il reste quand même plusieurs
sont
enfants.
Quand même, ouais, il en reste 3. Sont survivants. Comme je l'ai mentionné, il y a une ordonnance de non-publication qui empêche les médias d'y nommer. Ils ont été pris en charge par les services sociaux canadiens. On ne connaît pas leur identité. On ne sait pas où ils sont. Ils sont bien. On ne veut pas savoir sont où. Laissons-les tranquilles. Et les 3 dingos sont en prison.
Pour longtemps.
Pour longtemps. Donc, voilà.
Aïe, aïe.
C'est toute une histoire. C'était chargé comme épisode.
Aïe. Ouais, c'est tellement... triste, là.
Ah, c'est vraiment triste. Puis vous regarderez les photos, là.
Je me rappelle quand c'était sorti dans les journaux, il me semble, on voyait des photos des filles, genre, justement. Puis, comme...
puis sur toutes les photos, ils ont toutes les 3 autres, les enfants survivants sont toutes floues.
Ah oui. Ouais.
Tu peux pas les voir. Je trouve ça vraiment. Ça, c'est bien, là.
Ben oui, c'est bien. Gardez
parce qu'elles autres crèmes traumatisées, là.
Ben oui.
Tu passes d'une famille de 10 à 0, 3. Ça n'a aucun sens. Parce que je voulais pas créer. Je trouvais ça important de dire que comme c'est pas relié à leur religion
parce que
ça n'a aucun rapport. Là, le papa, il est juste fou. Là. Il aurait pu être chrétien aussi. Il aurait pu être n'importe quoi. Parce qu'en plus, il disait qu'il vivait une vie assez occidentale. Il envoyait ses enfants à des écoles américaines. Puis, il n'était pas très pratiquant.
Non.
Bref. Donc, histoire assez intense. Épisode très long. J'espère que c'était pas... Désolée.
Mais non, mais je pense que les gens sont contents avec les longs épisodes.
Je pense que oui. Alors, merci encore une fois de nous avoir écoutés. On se revoit dans 2 semaines avec la magnifique Hélène et sa voix FM.
Fallait que je te dise que Lal, ça la gosse à chaque fois qu'on dit on se revoit dans 2 semaines parce qu'on se voit pas.
on s'entend. Dieu. Oh là là, faut faire attention à tout ce qu'on dit. Bon, mais on peut pas dire qu'on se parle non plus parce qu'on se.
On parle pas à notre
c'est
public.
Une communication à un sens. Fait qu'on dit quoi?
On se
monologue à deux dans deux semaines?
Ouais.
Voilà, on se monologue à deux dans deux semaines. Bye la gang, merci.
Bye, à la semaine prochaine.
Bye.